C'est très difficile, un chef d'État qui veut tous les pouvoirs, d'arriver à les maintenir dans ses mains. La démocratie, c'est autre chose.
Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple.
Je suis très loyal au président de la République, mais à ma majorité, et très libre, mais c'est en étant libre.
Les deux
libre.
Sont compatibles.
Mais c'est en étant libre que je suis loyal.
Avec vous, le parlementarisme caporalisé nous a servi.
Le mot de la fin revient toujours à l'Assemblée nationale.
Oui, peut-être.
Travailleuses, travailleurs, camarades, c'est cuit. On s'est bien battu, mais la réforme des retraites est passée. On nous avait promis la ruse et la fureur.
Vous savez, on a encore quelques ruses dans notre chapeau qu'on va essayer de sortir. Ben, je ne vais pas vous les détailler, c'est le principe de la ruse quand même.
Mais il faut avouer que les macronistes ont été plus rusés, voire carrément plus cyniques. Ils ont utilisé tous les outils jusqu'au plus coûteux démocratiquement. Ils ont méthodiquement démoli les derniers contre-pouvoirs à leur domination politique. Même avec une majorité relative au Parlement, ils parviennent à guider la politique française vers la direction souhaitée par leur capitaine en chef.
Mener à la schlag, oui.
49-3 pour le budget, 47-1, 44-3 et pour la réforme elle-même, remplacement en commission sociale et article 40 en séance pour la proposition Liotte. Ce n'est plus de la rationalisation de l'activité parlementaire, c'est carrément une destitution.
Le parlementarisme rationalisé, mes chers collègues, nous entravait. Avec vous, le parlementarisme caporalisé nous a servi.
Et on voit bien qu'au fond, le problème des retraites est double. Et c'est ce qui explique que la mobilisation ait été si intense et si longue. D'un côté, cette réforme cristallise tout ce que les plus modestes et les plus à la peine ne supportent plus d'entendre. Faites un effort, il faut financer tout ça. Vous devriez être contents, vous avez un travail, bande d'ingrats. Et de l'autre côté, les Français sont franchement opposés au système macronien, vertical, abusif et violent. Ce profond rejet des Français s'est manifesté par de lourdes pertes pour les macronistes. D'ordinaire, un président élu bénéficie d'un très fort effet d'entraînement pour les législatives où son parti rafle une large majorité à l'Assemblée. Mais l'an dernier, il semble que le désamour des Français pour Macron ait été si fort qu'il a contrecarré cet effet d'entraînement. En effet, la NUPES est arrivée en tête du premier tour des législatives. Une première sous la Ve République pour des législatives aussi proches d'une présidentielle. Pour finir avec plus ou moins 150 députés, c'était pas non plus la victoire écrasante, hein. Et il a bien fallu à notre bon roi manœuvrer autour de cet obstacle. Eh oui, pas question de composer, on n'est pas dans un conte de fées.
C'est ça, le conte de fées compte sur moi, allez-y.
Il a alors inventé tout un ensemble de nouvelles méthodes, compromis et autres tisanes lénifiantes, à chaque fois plus rocambolesques les unes que les autres. Évidemment, pour pouvoir mieux nous escroquer ensuite, hein, comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie.
Comme on le redoutait, le système macroniste a tenu à sa réforme comme à sa vie. Et a fini par imposer ses choix au prix d'une profonde fracture dans le corps social français. Le mécontentement qui parcourt le pays risque alors très certainement de muter de strate, de passer d'un désaccord politique ou de style de gouvernement à une défiance ouverte et subversive de nos institutions.
Bonne chance pour les JO 2024, hein.
Alors, pour éviter de se noyer de désespoir, que faire? Nous avons vu la dernière fois que les problèmes démocratiques français se situaient essentiellement dans la prépondérance présidentielle. Plusieurs options s'ouvrent alors. Revenir à la 5e telle qu'elle était en 1958 ou tout bazarder et essayer une nouvelle république. Chacune de ces options a ses dangers, ses avantages et ses contraintes. Dans cet épisode, on va se focaliser sur la première option et se demander si, au fond, il ne suffirait pas de revenir à nos institutions initiales, celles qu'on avait avant que De Gaulle ne fasse son référendum de 1962, avant que tout parte à volo. Car oui, si aujourd'hui le peuple n'en peut plus de la fonction présidentielle toute puissante, c'est que... On associe souvent à tort la Constitution de 1958 avec la toute-puissance du président de la République, décideur de tout, mais responsable de rien. Alors ça voudrait dire quoi, concrètement, revenir à l'esprit 1958? Parce que, dans ce qui a suivi, on va peut-être pas tout jeter, il y a plein d'innovations intéressantes. Il faut donc trier le bon grain de livret pour garder les nouveautés positives et écarter ce qui est la cause de notre malheur démocratique. Il s'agit simplement de retirer au président l'essentiel de ses pouvoirs. Autrement dit, retirer à notre République ce que pendant trop longtemps, et à tort, on a appelé sa tête.
Faire de l'Élysée une maison pour vieux politicards un peu inutiles, comme René Coty.
Paris compte un palais de plus, celui de l'UNESCO. Le président de la République a inauguré cet ensemble dont l'architecture est franchement moderniste et la décoration résolument d'avant-garde, puisque la fresque qui accueille le visiteur est signée Picasso.
C'est notre Raïs à nous. C'est Monsieur René Coty.
un grand homme.
Alors accrochez-vous à vos sièges parce que ça va décoiffer. On part dans un monde parallèle, la France, si le président était élu comme en 58. Bon bah déjà il aurait quand même pas mal la classe, hein, parce qu'on peut dire du mal de Gaulle, mais il en jetait quand même plus que les narcs au costume cintré. Déjà, le président de la République ne serait pas élu pour 5, mais 7 ans. C'est pas contre-productif, ça ? Eh bien, oui et non. Alors, oui, on les a plus longtemps au pouvoir, mais non, parce que cette durée de 7 ans rentre souvent en conflit avec les 5 ans des députés, ce qui conduit le président à devoir être dans l'opposition. Ah oui, c'est les cohabitations, c'est vrai que c'était pas mal quand même. Ah, Jospin.
J'ai perdu, je m'en vais, tant pis pour la gauche. C'est bon, Jospin, on...
Donc déjà, le président serait mécaniquement obligé de céder le pouvoir effectif à son opposition. Vous imaginez la tête à Macron, obligé de présider un conseil de ministres de la NUPES ?
Ah oui, ah c'est très bon.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Ensuite, et peut-être plus encore, il ne serait plus l'élu direct des Français. Ouais, ok, mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir un Gugus tout là-haut qui n'est pas directement élu par le peuple, c'est pas antidémocratique ? Parfois, la logique politique est un peu à rebours du sens commun. L'élection est souvent plus un marchepied pour le vrai pouvoir que le pouvoir lui-même.
C'est très difficile, un chef d'État qui veut tous les pouvoirs, d'arriver à les maintenir dans ses mains. La démocratie, c'est autre chose.
Combien de fois Macron s'est-il servi du fait que gna, les Français l'ont élu, gna, la réforme est démocratiquement validée, gna, j'ai été élu sur ce programme ?
Si les Français ne percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative il y a encore moins longtemps.
Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple.
Et c'est probablement un des plus gros clous dans le cercueil de notre démocratie. Le président instrumentalise avec aise et facilité son élection pour en tirer des gains politiques substantiels. La seule façon d'empêcher cette instrumentalisation à échelle industrielle, c'est de lui couper directement l'herbe sous le pied et de faire du président une fonction essentiellement symbolique et avec un rapport éloigné du peuple. Il ne pourrait plus invoquer son nom à tort et à travers. Bah mais alors qui gouvernerait la France ? Eh bien, comme la quasi-totalité des pays européens, sauf la Suisse et Malte, ce serait le gouvernement mené par le Premier ministre, collectivement et solidairement responsable devant le Parlement. Autrement dit, la solidarité entre le gouvernement et le Parlement serait d'autant plus forte que le gouvernement n'aurait pas derrière son épaule le spectre présidentiel, toujours prompt à manœuvrer pour prêter son soutien ou manigancer pour obtenir son obéissance.
Je suis très loyale au président de la République, mais à ma majorité, et très libre, mais c'est en étant libre...
Les deux
libre,
sont compatibles.
Mais c'est en étant libre que je suis loyale.
En revenant à nos institutions présidentielles de 1958, on crée un grand trou d'air dans nos fonctions politiques. Le président, réduit à inaugurer les musées, n'est plus qu'un manchot politique. Dans ce scénario, la place du président sera à reconquérir. Notre gouvernement sera-t-il plus collégial, avec de grands ministères très puissants ? Ou le Premier ministre parviendra-t-il à garder la tête de l'édifice sous sa responsabilité et sous le contrôle de ses pairs ? Car, en cas de désaccord substantiel entre l'Assemblée et le gouvernement, l'Assemblée a un outil qu'elle n'a pas contre le président, la motion de censure.
Censurer le gouvernement est un acte grave, et je le mesure pleinement. Mais laisser perdurer le discrédit sur notre Assemblée par le gouvernement marquerait un renoncement de notre part plus grave encore. C'est pour cela que j'invite chacune et chacun d'entre vous à voter cette motion de censure.
Le mot de la fin revient toujours à l'Assemblée nationale.
Ouais, mais il reste quand même un gros problème à ton tableau, quid du pouvoir de dissolution du président. Et c'est là que le bas blesse, parce que la Ve République de 1958 donnait tout de même de grands pouvoirs à ce président. Notamment et surtout, celui de dissoudre l'Assemblée nationale, et ça, ça change quand même pas mal la donne. Les réformes cosmétiques que l'on peut proposer à la Ve République ne seront pas sans conséquences et sont définitivement un pas dans la bonne direction. Mais suffisent-elles à rééquilibrer nos institutions ? Autrement dit, nos problèmes démocratiques et citoyens se réduisent-ils à seulement quelques retouches d'arrière-fond ? Ou est-ce la philosophie plus générale qui est à revoir ? Il est indéniable que la Constitution de 1958 n'a pas été rédigée avec les mêmes problèmes en tête que nous rencontrons aujourd'hui.
Cette Constitution, notre Constitution, permettez-moi de vous en rappeler l'histoire. Elle est née dans une période de troubles graves. Pour faire face aux défis de la stabilité économique et de la décolonisation, alors que la République même était menacée.
En 1958, il s'agissait justement de donner une tête à l'État pour qu'il cesse de courir dans tous les sens comme un poulet effrayé et qu'il agisse efficacement pour les Français. Ça, on a vu qu'on savait faire. Le Covid, les retraites, notre exécutif ne manque pas d'énergie. Notre problème, c'est qu'on ne parvient pas à canaliser cette énergie débordante dans un jeu démocratique et notre constitution n'est pas étrangère au problème. La Macronie, elle, ne se gêne pas pour le rappeler. Les articles de la honte, vous savez, le 40, 44.3, 47.1 et 49.3, tout ça, c'est prévu dans la Constitution. Et à dessein, notre Constitution a justement été construite, écrite, pensée et dessinée pour cette situation.
La Ve République, c'est cette construction institutionnelle qui donne toujours le dernier mot au Parlement, mais permet au gouvernement d'avancer sans être empêché par les manœuvres ou des majorités de circonstances.
La Quatrième République, c'était les alliances qui se font et se défont au gré des envies ministérielles des députés. Et le gouvernement était largement impuissant. On s'est alors figuré que renforcer les pouvoirs du gouvernement permettrait de contenir une assemblée indocile. Aujourd'hui, alors qu'on attend de l'assemblée qu'elle soit un contre-pouvoir efficace, la Constitution devient le principal obstacle à ce que des compromis soient recherchés. Elle favorise l'imposition de la volonté d'un seul au détriment du travail collectif. Alors, quelle option pour le futur ? Réviser la Constitution pour en proposer une sixième, c'est une tâche ardue, complexe et surtout qui peut revêtir bien des formes, certaines démocratiques et d'autres trompeuses. C'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Et si vous avez quelques sous-sous avant les vacances, Blast a toujours besoin de votre soutien pour faire entendre les voix de la dissidence démocratique et citoyenne. D'ici là, je vous laisse avec cette citation inspirante. « Tous les arts ont produit des merveilles, l'art de gouverner n'a produit que des monstres. » Saint-Just.
Oui. Peut-être.